Dans son livre « Le manuel du réel pour les athées », Alex Rosenberg récapitule pour ses lecteurs les réponses logiques à toutes les questions importantes de la vie. Voici ce qu'il affirme. Y a-t-il un Dieu? Non. Qu'est-ce que le réel? Ce que dit la physique. Quel est le sens de l'univers? Rien. Quel est le sens de la vie? Il n'y en a pas. Pourquoi suis-je là? Par hasard? La prière, ça marche? Bien sûr que non. L'homme est-il immortel? Vous plaisantez? Le libre arbitre existe-t-il? Impossible. Qu'est-ce qui se passe après la mort? L'univers continue sans vous et rien de plus. Quelle est la différence entre le bien et le mal? Il n'y a aucune différence. Pourquoi se comporter moralement? Parce que ça nous plaît, tout simplement. L'histoire a-t-elle quelque chose à nous enseigner? Pas vraiment. J'imagine que tout le monde ici s'est posé déjà ce genre de questions à un moment ou à un autre. Il est tout à fait normal pour un philosophe comme Alex Rosenberg de poser ce genre de questions. Il est tout à fait normal pour un athée comme Alex Rosenberg de répondre ce qu'il a répondu. Et ce que j'apprécie dans le livre de Rosenberg, c'est la manière dont il nous montre, malgré lui, le caractère absurde d'un univers séculier, un univers sans Dieu. Dans ses efforts pour nous convertir à l'athéisme, il nous offre, sans s'en rendre compte, une bonne défense de la foi chrétienne. Il nous montre la conclusion logique, dépravée, déprimante de la foi athée. Il s'accorde avec d'autres grandes athées du passé, comme Jean-Paul Sartre, par exemple, qui a dit sa philosophie, et je cite, « Il est très gênant que Dieu n'existe pas, car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. Il ne peut plus y avoir de bien a priori, puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser. » Fin de citation. Mais malheureusement pour Rosenberg et pour Sartre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste nous a déjà présenté la même logique il y a 3000 ans. Souvenez-vous que le Qohelet ou le philosophe qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste nous a montré la conclusion logique d'un monde sans Dieu. Ou peut-être plus précisément, un monde où on ne peut pas connaître Dieu. Et en fait, depuis que j'ai démarré cette série de messages dans le livre de l'Ecclésiaste il y a quelques semaines, j'avais hâte que nous poursuivissions cette étude aujourd'hui. Cette fois, on a deux passages, deux textes qui ont un thème en commun, celui de la sagesse. Souvenez-vous que le Qohelet est celui qui rassemble le peuple, d'accord? Il est le prédicateur, le philosophe qui enseigne. Et l'idée principale qui est au centre de ces deux passages, ces deux textes, est que la sagesse sans Dieu finit dans le vide. La sagesse sans Dieu finit dans le vide. Le Qohelet pose les mêmes questions que celles qu'on a mentionnées. Qu'est-ce que le réel? Quel est le sens de l'univers? Quel est le sens de la vie? Pourquoi suis-je là? Est-ce qu'on peut connaître cet univers? Est-ce qu'on peut connaître Dieu? Dieu s'intéresse-t-il à nous? Pour voir les réponses ou la réponse du Qohelet à ces questions, je vous invite à lire avec moi Ecclésiaste chapitre 1. On va lire les versets 12 à 18 et ensuite le chapitre 2, versets 12 à 16. Ce sont deux textes parallèles qui parlent de la sagesse et la folie. On commence par Ecclésiaste chapitre 1, versets 12 à 18. Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur à rechercher, à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages que se font sous le soleil. Voici que tout est vanité. et poursuite devant. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Ce qui manque ne peut être porté au compte. J'ai dit en mon cœur, ainsi, moi, j'ai développé et amassé plus de sagesse que tout ce qui était avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite devant. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Plus on a de science, plus on a de tourments. Maintenant, ensuite, le chapitre 2, versets 12 à 16. Alors, j'ai envisagé de voir la sagesse ainsi que la démence et la folie. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu ceci. Il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie, comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous d'eux. J'ai dit en mon cœur, le sort de l'insensé m'atteindra moi aussi. Pourquoi donc aurais-je été plus sage? J'ai déclaré en mon cœur que c'est encore là une vanité, car le sage ne laisse point de souvenirs perpétuels, pas plus que l'insensé. Au fur et à mesure que passent les jours, tout est oublié. Le sage meurt bel et bien comme l'insensé. Avant d'aller à plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice et pour transformer la vie de tes enfants afin que nous soyons adaptés et préparés à toute œuvre bonne. Instruis-nous par ta parole aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vais développer l'idée principale de ces deux passages qui est que la sagesse sans Dieu finit dans la ville. Et je vais faire ça en examinant la sagesse en trois situations différentes. La sagesse entre les mains d'un fou, la sagesse entre les mains d'un simple mortel et enfin la sagesse entre les mains de Dieu. Premièrement, nous observons ce qui se passe quand la sagesse est remplacée par la folie. On voit donc la sagesse entre les mains d'un fou. On voit que la sagesse ne reste pas longtemps entre ses mains. Il jette la bague avec la diamant afin de libérer de la place dans son coffre pour des bijoux en plastique, dans un sens. Notez que le Kohelet est le roi du peuple d'Israël, d'après le verset 12, chapitre 1. Les versets qui suivent décrivent un homme qui a un grand pouvoir et une grande sagesse. On dirait bien, d'après cette description, que le Kohelet, ou le philosophe, c'est le roi Salomon himself. Ça nous fait penser au livre d'un roi, chapitre 3, où Dieu propose au jeune Salomon tout ce qu'il veut. Et vous connaissez peut-être l'histoire. Salomon a demandé la sagesse afin de mieux conduire son peuple et afin de mieux exercer ses responsabilités en tant que roi. Dieu lui a donné tout ce qu'il voulait, avec en plus une longue vie et beaucoup de richesses. Mais toute la sagesse de ce monde ne l'a pas complètement satisfait. Et donc on lit dans ces deux textes que Salomon, si c'est bien lui le Kohelet, s'est tourné vers la démence et la folie afin de trouver une meilleure satisfaction. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que la folie, c'est justement un truc de fou. Ça détourne l'attention de la réalité. Il a découvert aussi que la folie protégeait de la douleur et des difficultés de la vie. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Avec beaucoup de connaissances, on a beaucoup de tourments, dit le Kohelet. Le Kohelet a découvert que l'ignorance, dans un sens, c'est le bonheur. Vous voyez par exemple que plus vous connaissez les gens autour de vous, disons dans votre église, plus vous connaissez leurs luttes, leurs problèmes, plus vous avez des responsabilités à leur égard. Plus vous connaissez la Bible, plus vous êtes redressé et corrigé, plus vous êtes impliqué dans la vie chrétienne. Plus vous connaissez le monde, plus vous pouvez réagir à ce monde. Plus vous avez de la connaissance dans un domaine, plus vous êtes recherché et demandé comme expert dans ce domaine. Mais ce genre de connaissance n'est pas facile. La sagesse implique la responsabilité dans un sens. C'est pourquoi nous sommes souvent tentés par les divertissements dans la vie. Et je ne parle pas des divertissements ponctuels qui font du bien, qui détendent, mais je parle d'une vie caractérisée par les divertissements, par un genre de ténèbres qui nous cache la réalité. Le divertissement qui nous aide à fuir notre responsabilité devant Dieu et devant ce monde. L'ignorance et la folie occultent la douleur de la vie. Comme Blaise Pascal a dit, nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. De la même manière, Ecclésiaste 2, verset 14 nous dit que l'insensé marche dans les ténèbres. Le fou ne reconnaît pas le caractère absurde de sa vie. Il ne change pas de direction parce qu'il préfère se précipiter vers la ruine avec une sourire sur son visage. Le fou ferme les yeux afin d'ignorer le vide qui est devant lui. Il allume la télévision pour voir ce que les médias lui proposent de croire sans se poser des questions. Le fou gobe tout. Sa réponse à tout, c'est « Mais le monde m'a dit. » Le monde m'a dit. Il ne se pose pas les questions les plus importantes dans la vie parce qu'il a peur des réponses. Il ne pense que ce qu'il trouve directement devant lui. Mais chez le fou, il y a quand même une certaine sagesse parce que dans un univers sans Dieu, ou dans un univers où on ne peut pas connaître Dieu, le monde sous le soleil, la sagesse finit dans la vide. Peut-être que le fou a raison donc. Il est heureux dans son ignorance. Mais même le bonheur finit un jour, ce qui nous amène au deuxième point. Et la deuxième option consiste pour nous, simples mortels, à rechercher et appliquer la sagesse qui se trouve dans ce monde. Dans un monde où on présuppose que Dieu est caché de nous, cette sagesse nous amène loin de ce Dieu qui est en fait la source de la sagesse. Dieu apparaît dans notre discours seulement quand on a quelque chose à dire contre lui. Comme le dit le Kohelet au chapitre 1, verset 13. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Sous le soleil, dans un monde séculier, on peut connaître la misère, mais ironiquement, on ne peut pas connaître le Dieu qui nous a donné cette misère, dans un sens. Quand les choses vont bien, merci à l'univers, merci à la nature, merci à nos bons gènes, merci aux lois de la physique. Mais quand la vie prend une mauvaise tournure, on maudit Dieu, cette espèce de vieux tyran. C'est ça la conclusion logique de la sagesse entre les mains d'un simple mortel, dans un univers sans un Dieu personnel et relationnel. La sagesse d'un simple mortel qui n'a pas l'espérance en Dieu est d'accord avec les paroles du verset 15, qui dit qu'on ne peut pas changer les réalités autour de nous. Nous sommes des sous-produits désagréables d'un univers aveugle, dans un sens. Il n'y a rien qu'on puisse changer. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé, dit le texte. Mais pour une raison quelconque, nous, de simples mortels, nous reconnaissons que la sagesse, c'est un peu mieux que la folie. Peut-être qu'il y a des limites à notre sagesse, peut-être que la sagesse mène au tracas, au tourment, comme le dit le Kohelet, mais pour beaucoup de monde, c'est quand même mieux de vivre autant que possible selon cette sagesse que de vivre selon la folie. Je me souviens d'un incident qui s'est passé il n'y a pas longtemps dans la Virginie occidentale. Trois amis avaient l'intention de démolir une grange. C'est un gros projet qui, normalement, exige beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Logiquement, on commence à démolir un tel édifice par le toit, n'est-ce pas? Et ensuite, on continue vers le bas. Mais un des trois amis a eu une idée lumineuse. Il a voulu commencer par le pilier principal. Et donc, avec une tronçonneuse, il a coupé ce pilier en bois, ce qui a fait s'effondrer toute la structure sur elle-même et sur lui-même. Évidemment, on n'apprend pas facilement de nos erreurs, puisqu'on peut trouver ce genre d'histoire partout, en fait. Partout. Des histoires des gens qui littéralement coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Mais dans ce cas, la folie a conduit tragiquement à la mort. C'est pourquoi le philosophe qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste peut dire au chapitre 2, verset 1, « Il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie. » Mais le Qohélète nous rappelle que même l'homme le plus sage subit le même sort. Peut-être pas sous le poids d'une grange, mais sous l'effet inexorable du temps. Le Qohélète constate et regrette que même une vie caractérisée par la sagesse finit par la mort. La vie des grands philosophes comme Alex Rosenberg et Jean-Paul Sartre, auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, finira comme celle d'un gars qui choisit le chômage comme métier, qui ne fait rien d'utile dans sa vie. La vie d'un homme ou d'une femme honnête qui s'applique à conduire sa vie avec sagesse de la manière le plus bénéfique possible finit comme celle d'un homme ou d'une femme irréfléchie qui dépense et qui gaspille tout ce qu'on lui a donné. Le sage meurt bel et bien comme l'insensé. Le sage a une sagesse, une connaissance qui lui révèle le problème de la souffrance et de la mortalité. Il n'a pas, dans toute sa sagesse, dans toute sa connaissance, le pouvoir de changer ce problème. J'ai toujours été frappé par l'histoire d'Alexandre le Grand et du philosophe Diogène le Cynique. D'après le récit, Alexandre a croisé Diogène devant un gros amas d'ossements humains. Et quand Alexandre, l'empereur riche et puissant et orgueilleux, lui a demandé ce qu'il cherchait, Diogène lui a répondu « Je cherche les os de ton père, mais je n'arrive pas à les distinguer des os des esclaves. » Autrement dit, Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, n'a pas fini sa vie mieux qu'un esclave. La leçon était simple. Que l'on se trouve dans l'une ou l'autre des deux extrêmes, puissant ou pas, riche ou pauvre, sage ou fou, on est tous logés à la même enseigne. On finit tous dans le même tas d'ossements humains. Entre les mains d'un simple mortel, la sagesse en Dieu finit toujours dans le vide. Troisièmement et dernièrement, nous voyons la sagesse entre les mains de Dieu. Cette sagesse est la réponse à tous nos efforts vains. Sois sage, sois fou. Après tout, peut-être que vous vous identifiez avec le fou. Vous dites que la sagesse n'enfante que la douleur. Vous vous en fichez de la recherche de la connaissance. Vous préférez vivre dans l'ignorance, dans les divertissements qui vous rendent aveugle aux vérités désagréables. Vous ne voulez pas la responsabilité qui vient avec la sagesse. Mais en tant que fou, votre ignorance ne mène qu'à la ruine. Ou, de l'autre côté, il est possible que vous identifiez plutôt avec le sage. La connaissance vous intéresse, vous recherchez la sagesse de ce monde qui contient des fois des très bonnes choses. Vous aimez étudier tout ce qui se passe sous le soleil. Votre sagesse vous amène loin, mais pas assez loin pour vous sauver. Vous voyez ? Sous le soleil, dans un monde qui manque le Dieu de l'Alliance, un Dieu personnel, le sage, comme le fou, finit dans la tombe. L'intelligent, comme l'insensé, finit dans le vide. Vous êtes peut-être quelqu'un d'important. Vous êtes cadre dans une grande entreprise. Vous avez un doctorat en économie. Vous parlez plusieurs langues. vous avez la connaissance, la sagesse aux yeux du monde. Mais il y a plus de chances que les gens se souviennent du gars qui fait tomber la grange sur lui-même que de vous. Malheureusement. Nous sommes d'accord avec le Qohelet. Sous le soleil, la sagesse vaut mieux que la folie. D'accord. Mais en fin de compte, c'est quand même de la vanité, de la fumée, de l'absurdité, du vide. Est-ce qu'il y a autre chose dans la vie? L'année dernière, quelques-uns parmi nous étions en train de distribuer des flyers pour une de nos soirées débat, à vous de voir, sur la question, je pense, de la foi et la raison, quelque chose comme ça. Je me souviens d'un jeune étudiant en philo qui se tenait près de l'entrée de Lyon 2, qui a réagi tellement fort à une simple invitation à la réflexion sur un sujet important, qu'il tremblait de colère. Sa réponse était la suivante. Discuter sur différents sujets, c'est une bonne chose, mais seulement si Dieu n'entre pas dans la réflexion. Dieu est hors de question, hors sujet. Ironiquement, au-dessus de la porte de l'université où on se trouvait, il était inscrit les mots « connaître le monde ». Connaître le monde, ou autrement dit, connaître la réalité. Connaître les choses les plus importantes. Mais en rejetant la sagesse de Dieu, on rejette la possibilité de connaître le monde. Le vrai monde, qui est constitué des choses sous le soleil, mais aussi au-dessus du soleil. Il y a une connaissance qui vient de Dieu, qui est accessible à tous, une sagesse qui est destinée aussi bien aux sages qu'aux fous. Proverbe chapitre 2, verset 6, on l'a lu déjà, nous rappelle que l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Notre Dieu est la source de la sagesse. Sa sagesse remet à sa place toute notre sagesse et toute notre folie. Sa sagesse ne finit pas dans le vide. Elle nous montre qu'il y a une réponse au problème de la mort et au problème de notre raisonnement limité qui finit dans un cul-de-sac, dans une impasse. Et qu'est-ce que c'est la sagesse entre les mains de Dieu? Comment reconnaître cette sagesse? Tout simplement, cette sagesse a été révélée en Christ, qui, par la grâce de Dieu et dans sa sagesse, est mort à la croix afin de prendre notre place et afin de payer la punition que nous méritions à cause de notre péché. Vous voyez que dans notre sagesse limitée, nous pensons que nous pouvons nous sauver par notre sagesse. Nous cherchons à nous appuyer sur des beaux discours, sur des signes extraordinaires. Mais Dieu nous a donné le simple message de l'Évangile, d'après lequel, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais malheureusement, pour certaines personnes, la sagesse de Dieu est trop belle pour être vraie. C'est trop facile. Ce n'est pas assez compliqué. Ça ne s'accorde pas avec la sagesse de l'homme qui cherche une réponse plus complexe, plus ambitieuse. Une réponse qu'on doit découvrir ou inventer par nous-mêmes. Mais 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 25 nous dit, je vais lire ce passage, ce texte. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 25. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez donc que la sagesse sans Dieu finit dans le vide. La sagesse sans Dieu finit dans le vide. On a vu cette sagesse entre les mains d'un fou, puis entre les mains d'un simple mortel sous le soleil. Mais on a vu que la sagesse qui vient d'une relation avec Dieu en Christ peut nous guérir de la folie et nous enseigner la véritable sagesse, une sagesse humble qui vient de Dieu. Si nous voulons connaître cette sagesse, il faut que nous connaissions le Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta sagesse, parce que dans ta sagesse, tu as conçu cet univers, tu as vu notre rébellion, notre folie, tu as prévu une solution en ton Fils Jésus. Nous te prions afin que tu nous donnes la sagesse de reconnaître notre besoin de toi et de chercher la plus grande sagesse qui vient de toi, la source de toute connaissance. Conduis-nous, Seigneur, vers toi en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.